Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il y a presque un an de ça, les Français se rassemblaient tous les soirs à 20h pour encourager et applaudir les soignants alors que le coronavirus allait bientôt heurter de plein fouet le système hospitalier et forcer le pays à se mettre à l'arrêt. Les soignants étaient alors considérés comme des héros de première ligne. Un an plus tard, 3 et même depuis aujourd'hui 4 vaccins sont autorisés en Europe. Mais le taux de vaccination chez les personnels soignants, pourtant prioritaire, peine à décoller, à tel point que l'exécutif les pointe du doigt et envisage même une obligation vaccinale, pourtant dénoncée et honnie au départ. Vaccination des soignants, pourquoi y a-t-il haro sur les héros? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, 3 invités sont avec nous aujourd'hui. Dans ce studio, nous sommes avec Patrick Pelou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin et urgentiste. Nous sommes aussi en ligne avec Thierry Amourou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers, le SNPI, et aussi avec Agnès Firmin-Lebaudeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée de la Seine-Maritime du groupe Agir, c'est la droite constructive. Vous êtes également pharmacienne et vous souhaitez rendre la vaccination contre le Covid obligatoire pour les soignants. Et vous avez déposé une proposition de résolution dans ce sens à l'Assemblée nationale. Patrick Pelou, au début de cette semaine, nous étions à un peu plus de 30% de personnel soignant vacciné, un peu plus chez les médecins que chez les autres. Qu'est-ce que vous pensez du rythme de vaccination chez les soignants?
Il est très insuffisant. On s'y est pris comme des manches dès le début. Au lieu de dire qu'il fallait vacciner tous les soignants, on a fait des catégories de manière à essayer de monter en puissance, comme ils aimaient dire, avec ce mot absolument sordide de personnel éligible, n'est-ce pas, par rapport à cette vaccination. Nous, on l'a dénoncé en son temps, parce qu'on a dit qu'il fallait vacciner tous les personnels qui étaient les plus exposés, c'est-à-dire les urgences, les services de maladies infectieuses, de réanimation et l'ensemble des personnels. Or, on s'était retrouvé avec une catégorisation par l'âge, ce qui était complètement idiot, d'ailleurs, parce que vous avez plein de personnels qui sont décédés, quel que soit d'ailleurs l'âge. Hein. Bon, et puis depuis, ben, on rame. Et du coup, vous avez une véritable... Vous avez vraiment quelque chose qui s'est passé dans les hôpitaux avec les médecins qui se vaccinent et les personnels, comme par une défiance de classe sociale, ne se vaccinent pas. À l'assistance publique, 40% des médecins sont vaccinés, 20% du reste du personnel. Il faut... À mon avis, et je dirais même qu'il faut que ça soit des infirmières, des aides-soignants, des ambulanciers, des brancardiers qui parlent de la vaccination plutôt que des médecins qui parlent de la vaccination, parce que vous avez vraiment cette espèce de fracture sociale qu'il y a dans l'hôpital. Et je pense que ça a joué sur le fait qu'il y a vraiment une vraie carence sur la vaccination, parce qu'il faut se vacciner. Il y a une réalité, c'est la contamination par le coronavirus nosocomial, comme on appelle ça. Et puis, nous avons eu des drames absolus dans certains hôpitaux, où jusqu'à 60% du personnel était malade en même temps.
Thierry Amourou, chez les infirmiers et aides-soignants, ça vient d'être dit par Patrick Pelou, le taux de vaccination est apparemment plus faible que chez les médecins. Pourquoi Patrick Pelou nous parle d'une espèce de réflexe de classe?
Non, absolument pas. La grande majorité des soignants souhaitent se faire vacciner, mais pas n'importe comment. Bon, d'abord un petit rappel, c'est que dans un premier temps, la Haute Autorité n'avait pas prévu de vacciner les soignants avant fin février. Il y a eu ensuite un second temps où il y a eu la vaccination des plus de 50 ans avec du Pfizer. Et là, pendant cette période, eh bien, les 3/4 des vaccinés étaient des soignants et simplement 1/4 des patients. Et puis est arrivé le temps où on a dit, ben, maintenant qu'il y a de l'AstraZeneca, ce sera AstraZeneca pour tout le monde, ce qui pose un certain nombre, effectivement, de réticences. Je rajouterais quand même également le fait que vous avez 70 000 soignants, rien qu'à l'hôpital, qui ont été contaminés par le Covid. Et la Haute Autorité, dans un premier temps, avait dit « ben, vous allez attendre avant de vous vacciner ». Et puis là, maintenant, elle dit « il faut 6 mois ». Entre l'infection et l'injection unique, il n'y aura pas de dose. Un autre élément, c'est que les soignants qui veulent se faire vacciner, même s'ils sont à l'hôpital, il suffit pas de rentrer dans un poste de soins pour avoir son injection. Il faut, comme partout, s'inscrire sur une liste, aller dans un centre de vaccination. Et là aussi, il y a un fort décalage entre le moment où on demande à être vacciné et où enfin on atteint l'injection.
Agnès Firmin-Lebaudeau, vous êtes en faveur de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Expliquez-nous pourquoi.
Écoutez, moi je suis en faveur, j'ai déposé cette résolution parce que je pense que le débat doit avoir lieu. D'abord, quand on travaille à l'hôpital ou même dans une crèche, il existe des vaccins déjà obligatoires. Donc rajouter celui pour la grippe, on en débat régulièrement tous les ans, celui pour la Covid-19 me paraît nécessaire. Se vacciner, c'est le seul moyen de se sortir de cette crise sanitaire. Donc se vacciner, c'est se protéger, mais aussi protéger les personnels. Et ça n'est pas un rôle sur les héros. Les professionnels soignants, quels qu'ils soient, continuent depuis maintenant plus d'un an à agir pour accompagner les personnes malades, et c'est assez extraordinaire. Maintenant, quand dans un service de pneumologie, plus de 55% des personnels ne sont pas vaccinés, je pense que ça n'est pas normal. On les protège, mais on protège aussi, comme l'a dit le professeur Pou, de la possibilité de contaminer les patients. Donc c'est nécessaire de se faire vacciner.
Voilà. Patrick Pelloux, qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle obligation vaccinale pour les soignants ?
Écoutez, moi, le pouvoir en France, il est politique. Les scientifiques ou ceux qui ont le savoir sont là pour abreuver la réflexion du politique. Mais le pouvoir, il est politique. Il est à la démocratie, et c'est bien de rappeler ça sur les ondes de RFI, car il y a beaucoup de pays où la démocratie, elle n'existe pas. Donc on a cette chance. Moi, je suis très content que le législateur, que Madame la députée, se penche là-dessus et fasse, et qu'il y ait un débat. Parce que c'est bien beau de croire que le pays est dirigé sans arrêt par des comités avec des personnes très prestigieuses et forcément prestigieuses qui ne sont jamais contestables et avec lesquelles vous ne pouvez pas avoir de débat contradictoire. Je suis donc très heureux que les chambres et les assemblées se penchent là-dessus et analysent cela. Et à partir du moment où ils ont cette analyse, vous savez, les députés, ils ont toujours une réflexion qui est très profonde, qui est concertée. Moi, maintenant, j'ai ma position. Je pense qu'il vaut mieux avoir un travail de prévention et qu'on améliore la possibilité de se faire vacciner dans les hôpitaux, comme ça a été dit, si vous voulez. Là, on est avec une défiance par rapport au vaccin AstraZeneca. C'est même plus la peine, à mon avis, de proposer l'AstraZeneca. Après ce qui vient de se passer au Danemark aujourd'hui, où ils ont suspendu la vaccination de l'AstraZeneca, après l'Afrique du Sud. Enfin bon, là, il y a un gros problème de communication avec ce vaccin. Il faut essayer de retrouver une souveraineté de fabrication des vaccins de toute urgence. Il n'y a pas d'autre débat à l'heure actuelle en France que de vacciner massivement. Et donc, si le législateur estime nécessaire cela, c'est un débat politique, c'est un débat démocratique, et je pense qu'il est nécessaire.
Thierry Amourou, quel est le discours qui remonte de vos adhérents sur une éventuelle obligation de se vacciner ? Et on va effectivement parler des différents vaccins ensuite. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre organisation ?
Alors, la très grande majorité des soignants souhaitent se faire vacciner, mais avec un vaccin autre que AstraZeneca. Et surtout, ils sont extrêmement choqués de cette communication immonde du gouvernement qui laisserait entendre que les soignants, vous disiez les héros d'hier, on a l'impression qu'on est les salauds d'aujourd'hui parce qu'on sert de bouc émissaire pour masquer les incompétences du gouvernement à gérer la vaccination. La sixième puissance mondiale, qui est le 48e pays en pourcentage de population vaccinée, forcément. Alors après que certains parlementaires cherchent à faire parler d'eux en utilisant ce moyen, c'est autre chose. Mais c'est assez immonde. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a les premiers de cordée qui ont envie de se faire les premiers de corvée, où là, effectivement, on ressent un peu un contexte un peu de lutte des classes, où on rajoute toujours la couche pour montrer les gueux du doigt. Et donc, vraiment, c'est scandaleux de nous utiliser comme ça. Encore une fois, les soignants souhaitent se faire vacciner, mais avec un vaccin adapté. AstraZeneca pose un certain nombre de problèmes pour des professionnels surexposés que sont les soignants. Parce que c'est ça le souci. Globalement, AstraZeneca, c'est un vaccin qui marche comme tous les autres vaccins normaux. Simplement, pour le Covid, nous avons deux vaccins ARN qui ont des taux à 94%. Mmh. Donc, forcément, lorsqu'on est soignant, on a envie d'être vacciné par le vaccin le plus efficace et non pas par le moins efficace. Et puis, il y a le problème du variant sud-africain. Lorsque vous avez un département comme la Moselle, où vous avez 50% de variants sud-africains, dire à des soignants qu'on va vous vacciner avec AstraZeneca, qui a été interdit en Afrique du Sud, parce qu'il n'était efficace qu'à 22% sur le variant sud-africain, avec un vaccin qui aujourd'hui est suspendu dans 8 pays européens, bon ben voilà, là est le problème aujourd'hui. Alors, donc demain, Pfizer va arriver en masse. Alors, on sait qu'il y a 10 millions de doses de Pfizer qui doivent arriver le 5 avril, que 10 autres millions de doses de Pfizer doivent arriver en mai. C'est ce qu'attendent les soignants.
Alors, il y a deux choses dans ce que vous disiez, Thierry Amouroux, et je vais poser deux fois les deux questions à Agnès Firmin-Lebaudeau. D'abord, est-ce que vous comprenez que des personnels soignants, dans la communication de la majorité du gouvernement, se sentent un petit peu stigmatisés ces derniers jours ?
Non, je pense que le gouvernement... D'abord, je vais répondre à M. Amouroux. Oui. Moi, je n'ai pas besoin d'une PPR sur la vaccination obligatoire pour faire parler de moi. Moi, je n'ai pas envie de faire parler de moi. J'ai envie que les soignants se fassent soigner. Et si M. Amouroux regardait le travail qui est le mien, régulièrement, je porte le débat tous les ans sur la vaccination obligatoire contre la grippe dans les EHPAD. J'ai porté le remboursement de la vaccination contre chlamydia. Donc vraiment, pour moi, ce n'est pas un sujet de porter l'obligation vaccinale. Ça, c'est la première chose et je n'ai pas besoin de ça pour faire parler de moi. Alors, franchement, je suis parlementaire et je pense que je dois porter ce débat parce que débat, il doit y avoir. Ça me semble quelque chose d'important. La deuxième chose, pour répondre à M. Amouroux sur les vaccins, je rappelle que les premiers vaccins qui ont été dans les EHPAD sont le Pfizer. Les personnels soignants à qui on pouvait vacciner dans les EHPAD ne voulaient pas se faire vacciner. Même avec le Pfizer.
Uniquement les plus de 50 ans. Dans un premier temps, c'était pas pour les soignants et après, c'était pour les plus de 50 ans.
Et même avec ça, on en est aujourd'hui à uniquement 30% des personnels soignants dans les EHPAD qui ne voulaient pas se faire vacciner.
50% des soignants de plus de 50 ans sont vaccinés.
Je suis allée dans les EHPAD, j'ai demandé est-ce que vous voulez vous faire vacciner ? La réponse était clairement non. Et ce n'était pas Pfizer, AstraZeneca, au contraire.
Vous sentez une réticence, vous, Agnès Firmin-Lebaudeau, vous sentez une réticence claire ?
Bien sûr, il y a une réticence, mais il y a une réticence qu'il faut expliquer en faisant de la pédagogie, en expliquant ce qu'est le vaccin et expliquer que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que de nous vacciner. Donc je crois que c'est quelque chose qui est important. Moi, la semaine prochaine, je suis pharmacien, je pourrai vacciner, je vais vacciner. Il y a plein de mes patients qui hésitent encore à se faire vacciner. Régulièrement, je fais de la pédagogie. J'essaie d'expliquer pourquoi on va devoir se faire vacciner. Donc c'est un travail et nous avons besoin des soignants, de tous les soignants qui sont les héros, les mêmes de mars dernier sont les mêmes qu'aujourd'hui. On a besoin aussi qu'ils se vaccinent parce qu'on a besoin d'eux aussi pour nous accompagner à expliquer le rôle de la vaccination. C'est un travail de pédagogie au quotidien. C'est un travail important qu'on doit mener collectivement.
Patrick Peloux, est-ce que quand on est soignant, et qu'on est quand même surinformé, bien informé, est-ce qu'on a tendance à se dire je vais choisir mon vaccin, je vais attendre qu'il y ait du Pfizer plutôt que de la AstraZeneca.
Les soignants dans leur ensemble, moi je ne fais pas de distinction en fait. Les soignants dans leur ensemble sont des gens qui sont extrêmement érudits par rapport à la santé et ils voient au quotidien, quelle que soit leur fonction à l'intérieur des établissements de santé en général, à la ville comme à l'hôpital, ils voient les conséquences de ce qui est la non-vaccination pour d'autres pathologies. Et si nous avons éradiqué la poliomyélite pratiquement sur Terre, c'est bien parce qu'il y a eu le vaccin. Bon, là, on est avec un problème monstrueux. La société est totalement plantée. Nous avons une crise sociale absolument cataclysmique qui va engloutir plusieurs générations dans le chômage et la précarité sociale. Faut donc réagir, et c'est peut-être pour ça que le législateur et le politique et l'ensemble de la société a employé un vocabulaire guerrier. Donc là, c'est normal que le débat soit passionnel. Pourquoi il est passionnel ? Parce que d'abord, on manque de vaccins. Et d'un coup, on se retourne vers le fait que la souveraineté de notre pays, eh bien, elle vient d'exploser à la figure de tout le monde. On s'aperçoit qu'on n'est plus capable de fabriquer des vaccins. Voilà, c'est terminé. On a tout paumé. Voilà. Bon. Donc, du coup, on va chercher des vaccins ailleurs. Mais en effet, comme ça a été dit par Amourou, d'un coup, on s'aperçoit que l'AstraZeneca, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et on est en droit d'exiger, puisque on nous a affublé du mot de héros, alors qu'on fait juste notre travail.
Oui, j'ai utilisé ce mot par facilité de langage. Je sais que
c'est juste notre travail. Voilà. D'accord, c'est juste notre travail, et c'est très bien comme ça, et c'est déjà un honneur. Le truc, c'est de comprendre qu'on veut avoir un vaccin qui soit viable. En l'occurrence, les vaccins faits avec l'ARN messager. Bon, voilà. Et là, à l'heure actuelle, il y en a pas. Alors c'est vrai, il y a des perspectives. On nous annonce toujours demain des millions de doses qui vont arriver, etc. Et puis après, vous avez des injonctions contradictoires, puisque vous avez vu les informations d'aujourd'hui disant que les laboratoires ouvrent à la concurrence entre les pays qui font monter les prix. Donc, ce n'est pas sûr que ces vaccins arrivent en France, en fait. Donc, il n'y a aucune garantie. Donc, c'est extrêmement complexe. Alors, il faut qu'on reste très unis.
Ce que vous voulez dire, c'est que ceux qui vont payer plus et les premiers seront servis les premiers.
Évidemment, évidemment, évidemment. Et nous sommes un pays qui n'est plus tellement riche. Donc, d'un coup, ça va être difficile. Donc, il ne faut pas qu'on se dispute entre nous. Il faut qu'on trouve des solutions. Par exemple, ce qui s'est passé ce week-end est complètement idiot. Hein, quand d'un coup, ils ont ouvert les frigos, comme ils ont dit, avec les vaccins. Ils ont donné les vaccins avec l'ARN messager aux communes et aux casernes de chapeurs-pompiers pour des gens qui méritaient d'être vaccinés, mais pas forcément avec l'ARN messager, qui aurait dû être destiné à des malades graves ou au personnel soignant, pendant qu'on a envoyé l'AstraZeneca dans les établissements de santé. Je pense qu'ils se sont trompés. Ils l'ont reconnu eux-mêmes, d'ailleurs, hein, à mots couverts. Bon, ben voilà. Et si vous voulez, le fond du truc, là, en fait, c'est que la stratégie vaccinale est une cacophonie, est un énorme bordel en France. Et il faut... Bon, ça ne sert à rien de le dire. Il faut redresser l'avion, le navire, ce que vous voulez. Enfin, il faut changer de cap totalement sur la vaccination. Et moi je salue, hein, je suis médecin, je salue le fait que les pharmaciens puissent vacciner, parce que moi, je suis pour une vaccination de masse. Je suis pour que tout le monde soit vacciné, quel que soit l'âge.
Thierry Amourou, vos adhérents, ils vous disent « je veux de l'ARN messager ». Et d'autant plus qu'aujourd'hui, et Patrick Pelloux le signalait, l'utilisation du vaccin AstraZeneca était suspendu au Danemark, un lot retiré en Italie pour des problèmes apparents de coagulation. Est-ce que vos adhérents ont peur, tout simplement ?
Non, ils n'ont pas peur, mais au total, c'est 8 pays d'Europe qui ont suspendu AstraZeneca. Non, nous, ce qui nous choque vraiment dans cette communication gouvernementale, c'est qu'en dehors du fait qu'on leur serve de bouc émissaire pour masquer leur incompétence, c'est que derrière, il y a des messages qui posent de vrais problèmes de santé publique. C'est-à-dire envoyer le message que les soignants veulent pas se vacciner. Ce qui est faux, on veut majoritairement se faire vacciner. Ça laisse à penser aux gens, ah bon, les soignants veulent pas se vacciner, donc c'est qu'il y a un problème avec le vaccin, donc peut-être que moi non plus, je vais pas aller me vacciner. Gros problème de santé publique. Le deuxième message qu'ils ont envoyé, c'est que un maximum de gens qui vivent à l'hôpital et ils se font contaminer par le Covid alors qu'ils n'avaient pas le Covid avant.
C'est ce qu'on appelle une maladie nosocomiale. C'est des maladies qu'on attrape à l'hôpital.
Ça c'est une réalité.
Oui. Alors là aussi, c'est extrêmement grave parce que oui, en 2020, il y a eu plus d'infections que les autres années. Mais pourquoi ? C'est parce qu'au printemps, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gants. En guise de surblouse, on avait des sacs poubelles sur le dos. Et puis là, les politiques, ah ben ils n'étaient pas là pour s'indigner, c'était pas grave. Hein, mais effectivement, lorsqu'on manque de matériel, eh bien il y a eu plus d'infections nosocomiales. Ensuite, à l'automne, lorsque tous ces bien pensants, les directeurs d'hôpitaux ont demandé à leurs soignants qui avaient une PCR positive de ne pas respecter les 7 jours d'évitement pour aller travailler alors qu'ils étaient positifs. Mais là, on n'a pas entendu les politiques dire ah ben, c'est scandaleux, on met en danger les patients. Non, ils s'en moquaient à cette époque. Donc voilà, nous, on en a un peu ras-le-bol, vous voyez, d'être ciblés alors que pendant ce temps-là, ils font n'importe quoi. Donc on voit bien le divorce entre les politiques et les soignants sur le terrain qui font de leur mieux.
Et on n'a pas envie de se laisser vilipender comme ça par des politiques qui nous utilisent au gré de leurs besoins de communication.
Agnès Firmin-Lebaudot, on a la sensation, parfois, hein, vu de l'extérieur, et je parle même pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyen, il y a quand même un changement de pied par rapport aux soignants, quoi, tout simplement.
Non, je m'inscris en faux contre ce que vient de dire M. Amoureux. Moi, je suis professionnelle de santé aussi. Donc, ce qui
vous avez fait une loi.
On va laisser parler Agnès Firmin-Lebaudot, s'il vous plaît.
Peut parler, oui, merci. Oui. Je suis professionnelle de santé aussi. Le combat contre les masques, je l'ai mené tant bien que mal. Isoler les cas contacts à l'hôpital, j'ai plusieurs fois posé la question en trouvant ça pas normal. Et d'ailleurs, dans la fonction publique, c'était aussi le cas. J'ai testé des personnels qui étaient positifs, que j'ai demandé de mettre à l'isolement. Effectivement, à l'hôpital, ça n'a pas été le cas. Alors, on peut se poser la question sur cette gestion-là, effectivement. Maintenant, je le redis, et d'ailleurs, vous le dites vous-même, les professionnels de santé, quels qu'ils soient, ont valeur d'exemple. Nous avons des vaccins à disposition. Le gouvernement gère l'approvisionnement et gère parfois la pénurie. Il faut se vacciner. Tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, eh bien, ensemble qu'on va gagner le combat, doivent se vacciner. Voilà. Maintenant, après, il est faux de dire que les maladies nosocomiales, c'est une réalité. Et encore maintenant. Donc la transmission du virus, elle existe. Donc le vaccin empêche la transmission du virus. Vaccinons-nous tous. Voilà. C'est juste le combat qu'il nous faut mener parce que c'est le seul moyen, je le répète, et sans problème d'explication, sans pédagogie, voilà, sans dire, voilà, les politiques, non, les politiques, non. Moi, je suis, je le répète, je suis une femme politique, mais je suis pharmacien. Je vais vacciner dès la semaine prochaine parce que, comme l'a dit professeur Pelou, tout le monde doit vacciner. Nous allons avoir, quand les vaccins vont arriver en masse, et j'espère qu'ils vont finir par arriver en masse, on va devoir vacciner beaucoup de monde en un temps record. Donc, on va avoir besoin de tous. Donc, et je le répète, les professionnels de santé sont valeur d'exemple.
Patrick Pelou, on parlait de ce problème d'acceptation, mais vous nous laissez entendre quand même qu'il y a un problème de distribution. La logistique est lente, ça ne marche pas.
C'est pour ça que je me permets d'être un peu contradictoire avec Madame la députée. C'est que il y a aucune gestion de la logistique. Je veux dire, sous forme d'une boutade, on aurait confié à Amazon la distribution des vaccins, on n'en serait sans doute pas là. Ou si on avait confié aux grands distributeurs d'acheminer avec des congélateurs, on n'en serait pas là. Là, c'est une cacophonie épouvantable. Personne n'a de certitude sur les livraisons de vaccins qui vont arriver en France. On est contemplatif quand vous savez que, par exemple, nos amis marocains sont à 10% de leur population vaccinée, alors que nous, on est encore en dessous de 5%.
400 000 par jour au Maroc.
C'est formidable. Mais vive le Maroc, quoi. Je veux dire, c'est génial. C'est formidable. Ce que fait le roi du Maroc, là, c'est exceptionnel. Nous, voilà, on rame. On fait des classifications. Le matin, vous avez des injonctions pour savoir qui on vaccine, qui sont contradictoires avec celles du midi et qui réaffirment celles du jour précédent le soir. Personne n'y comprend plus rien, d'accord ? Vous avez, l'autre jour, on me dit, tu vaccines, donc on me donne des vaccins, donc je vaccine, je dis aux gens, bah, c'est bon, c'est du Pfizer. Fin de matinée, on arrive, on dit, oh, t'as vacciné avec de l'AstraZeneca, vous voyez ? C'est un truc, c'est absolument... vexant d'un point de vue médical, je pèse mes mots parce que en tant que médecin, j'ai une réflexion. Il y a des malades chez qui j'ai dit il faut leur injecter du Pfizer parce qu'ils sont suivis pour un cancer et une leucémie. Ah mais je vous assure, hein, j'aurais demandé des diamants, je les avais plus facilement. Hein, j'aurais demandé les clés ou les coffres de la Banque de France, c'était plus facile. Hein, vous demandez un Pfizer, mais vous avez l'impression de demander mais carrément la bénédiction quoi du pape. D'accord, c'est un truc qui est complètement fou. Et c'est pour ça que là, il y a un rôle, et je profite d'avoir une députée avec moi dans ce débat contradictoire. Avant de dire il faut vacciner obligatoirement les personnels, etc., et d'avoir cette analyse, il faut d'abord vous poser la question d'une enquête parlementaire, parce que pour moi, il y a un véritable scandale d'État sur cette vaccination, parce que c'est pas la première fois que la France rate une vaccination. Je vous rappelle qu'en 2009, ça a été un fiasco total. Hein, là, c'est des milliards qu'on a encore foutus par la fenêtre. D'accord ? Et là, on n'y arrive pas. Donc, pourquoi la France, d'année en année, n'arrive pas à organiser quelque chose de masse ? Vous voyez, parce que là, il y a le feu à la baraque. Parce que vous comprenez, ça se trouve, on va être le seul pays d'Europe à ravoir une troisième vague. Ce qui est en train de se passer dans les lits de réanimation à l'heure actuelle à Paris, on ne sait pas où mettre les malades. D'accord.
Et le ministre de la Santé annonce aujourd'hui qu'il va y avoir des transferts dans d'autres pays, d'autres régions, peut-être même par centaines.
Mais vous vous rendez compte où on en est? Et tout ça parce que depuis le mois de décembre, on n'a pas vacciné. Alors que vous avez vu ce qui se passe en Grande-Bretagne. Là, ils vont rouvrir le pays d'ici 2 mois, a annoncé Boris Johnson. Quand vous voyez ce que font les États-Unis, mais c'est absolument remarquable, où Biden est en train d'annoncer que tous les adultes fin mai seront vaccinés. 200 millions. Donc, si vous voulez, il y a un truc. Moi, c'est vraiment une colère vraiment très forte parce que ce vaccin est vraiment quelque chose d'essentiel pour sortir de la crise.
Thierry Amourou, vous êtes également en colère? C'est vous qui nous faites bip bip ou vous ne nous entendez plus? Oui. Donc Agnès Firmin-Lebaudot, sur ces problèmes de logistique, qu'est-ce que vous pouvez vous dire en tant que parlementaire?
Alors, il y a deux choses dans la logistique. Il y a d'abord l'approvisionnement. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a un sujet sur l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on gère la pénurie.
Après, on a perdu la souveraineté du pays, madame, vous le savez bien.
Je le sais bien, puisque j'ai posé, moi, des questions au gouvernement il y a maintenant 2 ans. Sur les problèmes de rupture de médicaments, et à l'époque, je posais la question de la souveraineté sanitaire en France. Voilà. J'ai reposé la même question en juillet 2019, lorsqu'en France, on n'avait plus 1 gramme de cortisone, et qu'il était impossible, et à l'hôpital, et en officine, d'avoir de la cortisone. Donc la question, pour moi, elle est réelle, elle est ancienne, elle a été clairement mise au goût du jour, et j'allais dire, sur la place publique, à l'occasion de cette crise. Et il faut absolument en tirer les conclusions pour que ça ne se reproduise plus. Il faut réindustrialiser la France et l'Europe.
Je suis complètement d'accord.
Parce que la question, elle est européenne, tant sur les matières premières que sur la fabrication. C'est un vrai enjeu. Et c'est un vrai enjeu qui a éclaté. Mais regardez les questions que je pose au gouvernement depuis 2 ans. Nous avions 200 médicaments qui manquaient fabricants il y a 6 ans. Nous en sommes à 800 aujourd'hui. 800 médicaments qui manquent fabricants aujourd'hui. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique. Cette crise, les amis, clairement en lueur, et ça pose aussi la problématique de la recherche. Aucun laboratoire français n'a été en mesure de produire et de trouver le vaccin.
Oui, sur la distribution des doses que la France a pu se procurer, Agnès Firmin-Lebaudot.
Après, sur la distribution, la logistique, elle se met en route en fonction des doses.
Je voudrais juste dire qu'une partie des chercheurs de chez Pfizer sont français. C'est-à-dire que la question, c'est pourquoi on n'arrive pas à garder en France des chercheurs et ils se barrent à l'étranger. Et ils sont le patron de Moderna, s'il
le
me semble,
voilà.
Il est français.
D'accord. Moderna,
donc d'un coup, faut pas nous faire passer pour des crétins. On a des gens qui sont très très bien en France, mais on ne sait plus exploiter ça. Alors là, peut-être qu'on remonte sur les incohérences politiques des 20 ou 30 dernières années.
Bien sûr.
Mais c'est absolument. Je suis à 1000% sur la réindustrialisation de la France.
Je ne fais passer personne pour des crétins. Je dis qu'en France, on paye les différentes politiques de réduction du prix des médicaments. Moi, ça fait des années que je dis qu'à force, c'est les pharmacies qui ferment, les grossistes et les industriels qui ne veulent plus investir en France parce qu'on met plus d'un an à donner un prix de médicament, parce qu'on met plus d'un an à donner une autorisation de mise sur le marché. Et donc, on s'en va d'abord dans les pays européens et puis on quitte bien sûr l'Europe parce que c'est encore mieux ailleurs et qu'on n'a pas anticipé la mondialisation et beaucoup de choses. Donc, c'est un vrai enjeu de santé publique. On a le savoir-faire. Le patron Moderna est français, vous venez de le dire. Donc maintenant, comment on fait pour rapatrier tout ça chez nous?
Thierry Amourou, on vous a retrouvé et il vous reste une minute pour conclure sur ce que vous venez d'entendre, sur la distribution notamment qui manifestement a dératé.
Ah ben, surtout lorsqu'on interdit aux 600 000 infirmières de France de pouvoir pratiquer directement les vaccinations. On est obligé de passer par une ordonnance médicale. Donc, ça rajoute encore une couche alors que les pharmaciens peuvent prescrire le vaccin qu'ils vendent. Donc, les 130 000 infirmières libérales qui sont les derniers professionnels à aller au domicile quotidiennement des patients, auront besoin d'une ordonnance médicale pour pouvoir vacciner, alors que dans les autres pays du monde, l'ensemble des autres pays du monde, les infirmières sont en première ligne pour la vaccination. Donc ça, c'est un vrai problème. Un deuxième gros problème, c'est que rien n'est fait à l'école, et ça, c'est un vrai souci. Il n'y a pas de purificateur comme en Allemagne, il n'y a pas d'ennemis groupes comme dans de nombreux pays, c'est du grand n'importe quoi.
Merci beaucoup Thierry Amourou, merci à nos autres interlocuteurs, Agnès Firmin-Lebaudot et Patrick Pelou. Lou d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications, sur notre site. Prochain débat, demain, même heure, même endroit, avec Philippe Le Caplain. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Bonjour chez vous. C'est pas du vent.